Je ne sais pas si la première prédication de l'année, c'est la plus attendue ou la plus redoutée. En général, on parle de bilan, on parle de bonnes résolutions, tout ce qu'on doit faire plus, tout ce qu'on doit faire mieux. Alors, tout ce qu'on doit faire moins aussi, et tout ce sur quoi on doit s'amender. Alors moi, je me réjouis que cette année, on va démarrer avec plusieurs prédications sur le thème de l'amour. Et je voudrais démarrer ce matin avec 1 Corinthiens au chapitre 13. On a fait une brève introduction il y a quelques semaines, peut-être certains s'en rappellent. Voilà, on a montré l'importance de l'amour. Hein. Ce texte de l'amour est donné par Paul dans le contexte d'un enseignement sur les dons et les dons spirituels, le service dans l'Église. Et Paul nous montrait dans l'introduction qu'on peut faire des choses absolument extraordinaires si on est dépourvu d'amour. Ça ne sert à rien. Et pendant qu'on conduisait sur la route pour aller vers la famille, hein, dans la lointaine Alsace-Franche-Comté, j'ai entendu une chanson d'un groupe qui s'appelle quoi, les Frangines, qui s'inspirait de ce texte pour dire, ben voilà, je peux faire plein de choses dans la vie. Si je suis pas motivé par l'amour, ça sert à rien. Et ça m'a étonné, hein, que le monde, alors, je sais pas, peut-être elles sont d'inspiration, je sais pas. En tout cas, écoutez ce chant, les Frangines, je sais même pas comment elle s'appelle cette chanson. On l'a entendu plusieurs fois. Et visiblement, c'est à la vogue, hein, sur les ondes. Ça m'a étonné. Et donc, Paul, il est en train de traiter cette question des dons dans l'église de Corinthe. Et après avoir parlé des dons de manière générale, il va entrer dans la problématique particulière des Corinthiens. Et il semblerait que chez les Corinthiens, ces Corinthiens, ils soient hyper spirituels. Et qu'au sein de cette église, en ce qui concerne les dons spirituels, il y a un culte de la performance. Alors l'église contemporaine a un petit peu changé. Dans l'église contemporaine, on battrait plutôt des records de somnolence. Ouais, c'est un peu violent comme ça, hein, tout de suite en début d'année. Mais dans les deux cas, le grand perdant, que ce soit dans le culte de la performance ou le culte de la somnolence, la grande perdante, c'est l'amour. Alors lisons ensemble ce texte, 1 Corinthiens 13, les versets 4 au début du verset 8. Alors on est page 238 dans ce livre rouge où peut-être on l'aura même. Nickel, excellent. Reviens quand tu veux. Hein. Merci, Alex. Voilà. Verset 4, il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Je m'arrête volontairement au milieu du verset. Voilà un texte, hein, comme je le disais la dernière fois, qu'on aime bien citer, hein, lors des cérémonies de mariage. Il est tellement beau, et un mariage, c'est un tellement beau jour, que ça convient très bien, n'est-ce pas? Il faut démystifier ce texte. C'est pas une image ou un rêve inaccessible. On cite pas ça comme si c'était, voilà. C'est vraiment le plus beau, mais bon, rêvez pas, hein. Jamais vous vivrez ça, jamais vous n'atteindrez ça. Il ne faut pas transformer ce texte en pieux mensonge. L'amour, c'est ça, mais ne rêvez pas, vous ne le vivrez, vous ne l'atteindrez et vous ne l'expérimenterez jamais. On peut le vivre, on peut l'atteindre, on peut l'expérimenter. Il peut aussi, s'il ne sert pas de pieux mensonge, il peut servir de matraque. Oui, vous savez, on s'en sert, hein, pour dénoncer les fautes des autres, tout l'amour qu'on n'a pas eu. Alors Paul, en citant ce texte, ne veut pas nous mettre sous un joug, le joug d'une loi encore plus inaccessible que celle de l'Ancien Testament. L'amour qui est décrit ici. Et ça me fait penser au collège, hein. Adolescents, ils sont sortis, adolescents boutonneux. On se questionnait sur c'est quoi l'amour. Et puis il y avait un copain de classe qui était témoin de Jéhovah. Il a commencé à citer ce texte de l'amour, etc. Et puis il s'est arrêté. Et puis derrière lui, j'ai cité l'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Et ça l'a étonné, hein. Que je sache ça. Il dit, ah, toi aussi tu lis la Bible? Je dis oui, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Et donc tout c'était, oh, mais c'est un texte sublime, c'est un texte magnifique. Ah, l'amour comme ça. Ouais, l'amour comme ça. Il est décrit ici en un message et un style sublime. Mais c'est pas un amour héroïque. C'est pas un amour élitiste.
Il n'est pas réservé à quelques héros de la foi. L'amour qui est décrit ici se manifeste dans la banalité de notre vie quotidienne. J'ai trouvé cette citation chez l'un des commentateurs. J'espère savoir en faire avec vous ce matin une lecture modeste, une lecture apaisante, une lecture consolante, une lecture évangélique. Parce qu'en venant vers nous en Jésus-Christ, l'amour de Dieu se fait humain. L'amour de Dieu se fait vivable, respirable, praticable, tout en restant plein et entier. C'est par cet amour parfait que Dieu veut se manifester dans son Église. L'amour parfait de Dieu, c'est se mettre à la place de l'autre. L'amour parfait de Dieu refuse ce qui blesse l'autre. L'amour parfait de Dieu recherche ce qui est bien pour l'autre. Et l'amour parfait de Dieu fait confiance à l'autre malgré tout. Alors comme c'est le début de l'année, si vous avez bien compté, il y aura 4 points dans la prédication ce matin. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. L'amour est indulgent. Rendre en français le terme qui est utilisé ici par Paul n'est pas très simple. C'est le mot qu'on traduisait autrefois par « lent à la colère ». Et si vous êtes penché un jour sur la version de Chouraki, il traduit ça par « long de nez » ou « long de narine ». Et ça a le sens de « magnanime ». Mais on n'utilise plus ça tous les jours, n'est-ce pas ? Peut-être même plus toutes les semaines ou toutes les années. L'amour a besoin de temps. L'amour ne se précipite pas. Il ne réagit pas avec emportement. Il ne réagit pas à chaud. L'amour prend le temps de respirer, de souffler, avant de porter un jugement sur l'autre. Il est indulgent. L'amour est disponible. Il est serviable. Il est capable de se plier à la nécessité du moment et de prêter attention aux besoins des autres, des frères et des sœurs. L'amour n'est pas dans les actions héroïques, mais dans les petits services que l'on peut se rendre entre frères, simplement, humblement. Alors que nous étions occupés à préparer la fête de Noël, deux frères s'échinaient à déboucher les toilettes. Ça leur a pris plusieurs jours. Daniel et Yves. Ils n'étaient pas dans les préparatifs de Noël. Hein. Ils se sont esquintés là, pendant plusieurs jours à essayer de déboucher les toilettes qui étaient bouchées jusqu'à devoir faire intervenir une entreprise extérieure. Cette semaine, deux sœurs sont venues. Et courageusement, fenêtres grandes ouvertes, bousculant les chaises, elles ont passé balais et serpillères partout, Ruth et Martine. Une sœur est venue ce matin discrètement, elle nous a préparé le café, elle a préparé le repas du Seigneur, Nathalie. Et d'autres frères et sœurs hein, sont à l'œuvre de cette manière-là, simplement, humblement, au service des frères et sœurs, dans des services qui ne sont pas héroïques, mais qui sont tellement bienfaisants pour nous. L'amour refuse de jalouser. Il ne fait pas d'excès de zèle. Il n'est pas fanatique. Il refuse la concurrence et les rivalités entre frères et sœurs. Il refuse ce genre de compétition, de combat qui oppose et produit des rivaux. L'amour recherche l'unité dans l'Église, jamais la division. L'amour ne se met pas en avant. Il ne manque pas à la discrétion. Il n'éclabousse pas. Il ne se vante pas. Il n'est pas frivole. Mais on peut aussi comprendre que l'amour est discret sur les misères des autres. Il ne les étale pas au grand jour, sous prétexte de prière. L'amour ne se gonfle pas. Il ne plastronne pas. Il n'est pas agressif. Il ne se sent pas supérieur. L'amour n'est pas vaniteux. Il ne la ramène pas. Il ne se la joue pas. C'est pas la peine de bomber le torse, comme ont fait les Corinthiens. L'amour n'est pas inné à l'homme, il n'est pas naturel en lui, parce qu'il n'appartient pas à la nature humaine. Luther disait, l'amour est le contraire du chien dans qui lui pousse tout seul. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais l'amour aussi refuse ce qui blesse l'autre. L'amour n'est pas indécent. Il n'est pas impudique. Le terme employé par Paul désigne presque toujours dans l'Ancien Testament la nudité agressive et impudique. Alors on se questionne, qu'est-ce que Paul a voulu dire ici ? Est-ce qu'il veut faire référence à la décence des vêtements ? La Bible enseigne sans pudibonderie le respect de la pudeur. Si la nudité humilie celui qui est dénudé, elle humilie aussi celui qui dénude et elle agresse le spectateur. La nudité, même artistique, n'est jamais neutre. Alors, il me semble que dans nos cultes, la pudeur n'est pas vraiment mise en péril, mais l'impudeur, elle peut aussi être relationnelle, en cherchant par tous les moyens à s'immiscer dans la vie d'autrui, en cherchant à obtenir par insistance ou par ruse des informations qui ne sont pas données volontairement, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, en dévoilant publiquement des faits, des informations concernant autrui et qu'il vaudrait mieux garder dans une sphère de discrétion. L'amour, donc, refuse tout ce qui inflige une blessure à l'autre. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se cherche pas lui-même. Il n'est pas narcissique. Et je sais que dans ce monde, on dit que charité bien ordonnée commence par... Ah, tout le monde sait ça, hein ? Eh bien, Paul prétend ici que l'amour ne songe pas d'abord à lui-même, mais d'abord et avant tout à l'autre. L'amour pense avant tout à celui qu'il veut aimer. Il s'affranchit de l'introspection, des scrupules incessants, des calculs, des manières. Il ne pose pas la question de savoir s'il est vraiment aimé, mais plutôt si quelqu'un a vraiment été aimé. L'amour, c'est placer l'intérêt de l'autre au-dessus du nôtre. C'est être capable d'agir en notre propre défaveur, par faveur pour d'autres. Et vous voyez ce qui m'a touché dans cet épisode de Toilette Boucher, c'est que vous l'avez constaté ce matin, notre frère Daniel, il est sous traitement de chimiothérapie et il doit éviter d'entrer en contact avec, microbes, bactéries, virus. Et donc, c'est pas qu'il nous aime pas, hein, mais il se tient à distance, il évite d'embrasser les gens quand il y a beaucoup de monde. Et pourtant, il a accepté de passer 3 ou 4 jours dans les toilettes. L'amour n'est pas dans les excès. Il ne se met pas dans tous ses états. Il ne se met pas en colère. L'amour n'interprète pas en mauvaise part. Il n'impute pas le mal. Il ne soupçonne pas de manière systématique. Il n'imagine pas le pire. Il importe donc que ce soit dans notre couple, notre foyer, nos relations, notre église, de ne jamais parier sur le mal, mais de rechercher l'interprétation la plus positive à ce que nous voyons et entendons. C'est ainsi qu'on construit la transparence et la confiance. Parce qu'avec l'amour, le pire n'est jamais certain. L'amour refuse ce qui blesse. L'amour choisit ce qui est bien. L'amour n'éprouve aucune joie devant l'injustice. Cette injustice, elle représente tous les maux possibles et imaginables. Le péché, la faute, l'oppression, la dispute, le mal, l'humiliation, la méchanceté, la transgression, l'injustice. Paul vise ici cette mauvaise joie, cette joie malsaine qu'il nous arrive d'éprouver quand les autres, par leurs travers, leurs fautes, leurs injustices, confirment tout le mal que nous pensons d'eux. Il nous justifie alors de les avoir mal jugés. Où qu'elle s'exerce, l'injustice ne peut jamais et en aucun cas réjouir le chrétien. L'Église ne peut ni s'en satisfaire ni s'en accommoder. Les prophètes eux-mêmes, ne se sont pas réjouis quand les catastrophes qu'ils avaient pourtant prédites de la part de Dieu s'abattaient sur Israël. Jérémie a écrit un livre qui s'appelle « Les Lamentations ». Ce n'est pas un livre de jubilation. L'amour partage la joie que donne la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il ? Alors Paul désigne ici ce en quoi on peut se fier pour mener une vie correcte. Cette vérité a une résonance éthique. Elle n'est pas abstraite, mathématique ou scientifique. La vérité concerne notre conduite. Elle nous aide à trouver le chemin de la vérité, le seul vrai chemin et la seule vraie vérité. Selon ce que Jésus dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est l'encouragement que Paul donne aussi en Philippiens 4, 8, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Nourrissez-vous. » Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de ce qui est noble, de ce qui est juste, de ce qui est pur, digne d'amour, d'approbation et de tout ce qui mérite respect et louange. L'amour choisit ce qui est bien. Et enfin, l'amour fait confiance malgré tout. Ici, on est en terrain difficile. On peut se laisser aller à l'interprétation immédiate, facile, naïve. C'est le choix que font le plus souvent les traducteurs, mais pas celui. C'est parce que le choix que font les exégètes, les commentateurs, parce que tout s'accompagne aussitôt d'un mais. Certainement, Paul ne voulait pas dire que le croyant naïvement devait croire tout, n'importe quoi et de n'importe qui. Mais il faut certainement comprendre dans ce tout, toujours, en toute occasion et de toute façon, que l'amour couvre tout. L'amour cache. Il dissimule, il étend le manteau de la pudeur et de l'oubli sur les fautes et les manquements des autres. Proverbe 10, 12 nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes et c'est repris par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4, 8. L'amour donc ne fait pas étalage des fautes des autres, mais l'amour cherche à les couvrir. L'amour pardonne. L'amour fait toujours confiance et il persévère dans cette confiance. Même s'il a été dupé à plusieurs reprises, il ne craint pas, l'amour ne craint pas de passer de temps à autre pour un imbécile. L'amour espère toujours. Il ne désespère jamais. Espérer, en fait, c'est croire que l'amour aura le dernier mot. C'est refuser la haine, c'est refuser l'injustice, c'est refuser la guerre, c'est refuser le mal, et c'est même refuser la bêtise. L'amour tient toujours bon. Il est opiniâtre, il persiste, il s'obstine, il fait preuve de constance. L'amour tient bon, il dure, il supporte tout ce que nous aurions tendance à écarter dans un premier réflexe. Il se montre têtu pour espérer et pour faire confiance. Dieu nous aime de cette manière opiniâtre. Il nous supporte alors que nous sommes des bons à rien insupportables. Et il persiste à vouloir faire de nous des serviteurs utilisables, des serviteurs utiles à son œuvre. L'amour fait confiance malgré. Et Paul conclut, l'amour ne défaille jamais. L'amour qui est ici décrit par Paul ne défaille, ne déraille jamais. Littéralement, il ne tombe jamais. Ou dit différemment, l'amour est infaillible. Alors, Paul s'adresse aux Corinthiens. Amis Corinthiens. Et au travers des Corinthiens, il s'adresse à nous. Amis petit saint toi, voulez-vous savoir quand vous êtes infaillible? C'est quand vous êtes à la fois indulgent, serviable, sans zèle, intempestif, sans vantardise, sans indiscrétion, etc., etc. Alors vous êtes entré dans ce mouvement qui est celui même de Dieu. Alors vous êtes entré dans l'amour. Que le Seigneur nous aide à le vivre.